Matthieu chapitre 22, verset 15, verset 21. Matthieu chapitre 22, verset 15 à 21, au nom de Jésus. L'impôt payé à l'empereur. Les pharisiens allèrent alors tenir conseil pour décider comment ils pourraient prendre Jésus au piège par une question. Ils envoyèrent ensuite quelques-uns de leurs disciples et quelques membres du parti d'Hérode dire à Jésus, « Maître, nous savons que tu dis la vérité. Tu enseignes la vérité sur la manière de vivre que Dieu demande. Tu n'as pas peur de ce que pensent les gens. Car tu ne fais pas attention à l'importance que semble avoir un homme. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain ? » Mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Il leur dit alors, « Hypocrites, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent et Jésus leur demanda, « Ce visage et ce nom gravé ici, de qui sont-ils ?»« De l'empereur, » répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, « Payez donc à l'empereur ce qui lui appartient et payez à Dieu ce qui lui appartient. » Amen. Jésus populaire, oui. Jésus populiste, non. Est-ce que Jésus était populaire? C'est la question qui se pose. Avait-il un discours populiste? Il est vrai qu'il a attisé la foule, et cela a attiré la jalousie d'un courant qui avait sa place dans la société à l'époque, c'était les pharisiens, c'était les jaloux de Jésus. Ce dernier, les pharisiens, eux, ils s'estimaient comme étant le courant ou le parti politique qui se prononçait être plus près du peuple, les populistes. C'est d'ailleurs un peu comme les partis politiques de nos jours, qui se déchirent entre eux pour essayer de convaincre ou plutôt de tromper occuper la population, qu'il se soucie de la vie de la masse populaire. Et chaque parti profite des situations scandaleuses pour en tirer profit, afin d'avoir de bons résultats dans les sondages. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'était le cas aussi dans notre péricope de ce matin pour notre méditation. On voit ici les pharisiens et les hérodiens qui tenaient conseil ensemble dans un but commun, piéger Jésus pour l'éliminer. Étonnant comme coalition. Normalement, ces deux courants ne s'entendent pas du tout. Pharisiens et hérodiens, ce sont deux mondes différents, deux planètes différentes. Ils ne s'apprécient pas. Ils se détestent mutuellement. Mais quand il s'agit de tuer Jésus, alors là, ils peuvent mettre de côté leur désaccord. Quand il faut éliminer Jésus, tout le monde se donne la main pour se dresser contre lui. On oublie nos conflits. Il faut éliminer ce type, car il attire la foule. Et ce phénomène-là continue toujours et s'accentue même de nos jours. Si nous regardons ce qui se passe autour de nous, de notre époque, les attaques sur le christianisme fusent de partout. Les nouveaux courants philosophiques, des lois qui sont votées contredisant les enseignements de la Bible, au nom de ce qu'on appelle la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté de réflexion. D'ailleurs, ce qui me fait rire, moi personnellement maintenant, c'est la manipulation qui est faite autour de la célébration des 500 ans de la Réforme. Tout le monde s'en approprie, même les politiciens. Même les sociologues en parlent. En détournant le cœur et le vrai message de la Réforme, en mettant l'accent sur l'héroïsme du monsieur Martin Luther. Oh, il était un type courageux. Oh, il osait se dresser face au système. Et ça, on peut l'utiliser en politique. Ils mettent en valeur la bravoure du réformateur tout en enterrant l'axe principal de la réforme, c'est-à-dire la justification par la foi et le sola scriptura, l'écriture seule. On enterre ça. Le message de la réforme, personne ne connaît ça aujourd'hui, mais on met en valeur un homme, Martin Luther, un courageux. C'est pas ça, la réforme. Mais ça, c'est juste un exemple pour vous dire comment on pervertit le message biblique aujourd'hui avec une subtilité étonnante, et c'est ça le ruse du diable. Mais si je dis cela, c'est parce que même au temps de Jésus, les gens semblaient être touchés par le message de Jésus. Je dis bien semblaient être touchés en voyant la foule qui le suivait partout. On se dit, ah, vraiment, Jésus a touché les cœurs. Mais non, ce n'est pas vrai. Ils appréciaient Jésus parce qu'il les a donné du pain. Ils appréciaient Jésus parce qu'il a guéri les malades. Il sait faire des miracles qui étonnent la foule. Il fait revivre Lazare qui est déjà décédé pendant 4 jours. Impressionnant, non? Mais ça s'arrête que là. Et lorsqu'il fallait choisir entre Jésus et Barabbas, il faut savoir, Barabbas, c'est qui? C'est le zélote. Et le zélote, c'est un patriote, un populiste, qui faisait aussi des choses et qui a été apprécié par la population, puisque, il faut savoir, à son époque, les zélotes luttaient contre les Romains, les occupants. Alors, c'était évident que la population ait choisi Barabbas au lieu de choisir Jésus. Pourquoi donc? Pourtant, ils ont vu les miracles. Ils ont entendu l'enseignement de Jésus. Pourquoi ce criminel, Barabbas? Parce que c'est simple, Jésus n'avait jamais eu de mots durs envers les Romains. Si vous lisez tout l'évangile, il n'y a aucune phrase dure contre les Romains, contre l'occupant. Donc ils soupçonnaient Jésus comme ami, copain, copain avec les Romains. Au contraire, on le soupçonnait d'avoir de la sympathie envers les Romains puisqu'il allait manger, par exemple, chez le collecteur d'impôts, qui n'est autre que l'agent fiscal des Romains. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison précise que les pharisiens et les hérodiens viennent piéger Jésus dans ce texte. La question qu'a posée les pharisiens et les hérodiens était un faux problème. Ce n'était pas le vrai problème. Quand ils parlaient, est-ce qu'il faut payer l'impôt ou pas? Ce n'était pas ça le problème. On dirait comme s'ils se souciaient tout à coup du peuple. Mais dans toutes les réponses possibles, ils croyaient piéger Jésus. Dans toutes les réponses possibles, Jésus serait forcément condamné. Car s'il répondait oui, qu'il faut payer la taxe à César, alors les pharisiens vont l'accuser de traître et le faire détester par la population. S'il répondait non, il ne faut pas payer, on ne doit pas payer la taxe à César, alors les Hérodiens vont le coincer en l'accusant de rébellion contre César. En d'autres termes, ils ont obligé Jésus à se positionner et à prendre parti. Tu dois prendre parti. Es-tu contre César ou pour César? C'était le piège. Mais voilà, la réponse de Jésus était étonnante. Il mettait dos à dos les deux parties. Parce que la réponse que Jésus avait donnée, si on l'analyse bien, n'est autre que les deux positions des deux parties. Jésus n'a pas répondu à la question. Jésus les a renvoyés à leur propre position. Regardez bien au verset 19. Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. Il aurait pu dire, donnez-moi un argent. Mais il a dit, montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. Alors ils lui présentèrent une pièce d'argent. Cela veut dire qu'il y avait deux monnaies différentes à ce moment-là. Le shekel, la monnaie hébraïque, qu'on utilisait pour le temple à Jérusalem, pour acheter les offrandes, parce que, paraît-il, la monnaie romaine est souillée et ne doit pas entrer dans le temple. Donc, il fallait faire des échanges avec le shekel. Et la monnaie romaine pour payer les taxes pour César. Voilà les deux monnaies qui ont été utilisées. Et donc, la réponse de Jésus n'est pas sa réponse. Mais elle reflète les deux tendances qui régnaient à son époque. Les Hérodiens, qui étaient de mèche avec les Romains, ils utilisaient cette monnaie pour enrichir l'occupant. Et les pharisiens de l'autre côté, qui se disaient proches du peuple, faisaient croire aux gens que le shekel est la monnaie qui peut entrer au temple, car c'est la seule monnaie qui n'est pas souillée. Voilà, ce sont les deux positions. Donc, donnez à César ce qui est à César. Vous qui êtes partisans de César, donnez-le. Et vous qui êtes partisans du peuple, donnez-le à Dieu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu trouver de choses à dire. Et si vous regardez au chapitre précédent de notre péricope, au chapitre 21, il y a l'histoire où Jésus chassait les vendeurs du temple. Parce qu'il y avait cette magouille pour avoir les devises. Tu dois échanger les devises romaines avec du shekel. Pourtant, le shekel n'avait plus de valeur. Vous voyez l'astuce et l'arnaque qui a été utilisée par les anciens d'Israël. Jésus ne voulait pas entrer dans l'engrenage de ces différents courants de son époque. Et c'est justement pour cela que Jésus n'a pas été apprécié par les différents leaders de son époque. Et cela lui a coûté très cher. Car c'est après cette affaire-là que toutes les factions se sont mises d'accord pour tuer Jésus, coûte que coûte. Jésus ne prend pas position. Jésus était populaire, mais non populiste. Il ne cherchait pas à sauver sa peau ou à être aimé de tout le monde. Ce n'était pas son objectif. Parce qu'à un certain moment, les pharisiens se ralliaient à lui et tantôt, les pharisiens étaient contre lui, puisque les sadducéens, les pires ennemis des pharisiens, partageaient aussi quelques propos de Jésus. Donc vous voyez, à chaque fois, Jésus n'avait pas d'étiquette, n'avait pas de parti pris. Et cela ne fait pas plaisir aux gens. Oui, chers frères et sœurs en Christ, Jésus n'avait pas un discours populiste, car au moment où Jésus était devant Pilate, ce gouverneur lui a donné l'occasion de se défendre face à ses accusateurs, rappelez-vous. Étonnamment, Jésus s'est tu et n'a rien dit. Et même Pilate, lui, a été convaincu que ce Jésus, lui-là, il était innocent. Mais pourquoi il se tait? Alors il lui a donné un conseil. Parle, ces gens t'accusent. Et en voyant tout cela, écoutant les gens accuser Jésus à tort et à travers, Pilate savait pertinemment que Jésus n'avait aucune faute à se reprocher. Mais il a préféré de se taire. D'où la phrase célèbre, « Voici l'homme ». Vous voyez, c'est incroyable. Quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui se tait, le grand gouverneur qui dit « Voici l'homme ». Normalement, c'est quelqu'un qui a la capacité de se défendre, de plaidoyer sa cause. Mais lui, il se tait. Voici l'homme. Jésus s'est retrouvé seul, sans la foule. Sans la foule qui le louait, qui l'ont acclamé. Où était cette foule? Il n'avait plus besoin de lui. Et en réalité, il ne prenait pas le rôle qu'il voulait imposer à Jésus. La population voulait un Jésus marionnette, un Jésus qui faisait leur volonté. Et dès que Jésus a refusé d'être proclamé roi d'Israël, ils l'ont dit « crucifiez-le ». Ils voulaient nommer roi, non pas dans le but qu'il règne sur eux, mais qu'il puisse faire tout ce qu'il souhaitait. À toi aussi, à moi, à nous tous qui sommes ici aujourd'hui, est-ce que Jésus, pour toi, est un roi qui gouverne dans ta vie ou juste un roi qui doit faire tout ce que tu veux? Et s'il ne suit pas ta volonté, est-ce que tu vas aussi le juger, le crucifier à la croix? Telle est la question à nous de répondre dans nos vies. Qui est Jésus pour toi? Quelle est sa place dans ta vie? Est-ce qu'il doit prendre une position? Est-ce qu'il doit choisir? Tu dois me suivre? Tu dois faire ma volonté ou pas? Sinon, quelle est ta menace? Sinon, je ne vais plus prier. Sinon, je ne vais plus faire ceci. Parfois, on fait des chantages à Dieu. Si tu me donnes cette réponse à ma prière, Seigneur, je vais faire ceci et cela. Jésus n'entre pas dans ce jeu-là. Il est roi. Mais l'homme, comme disait Pilate, voici l'homme. Parfois, devant toutes nos accusations, il se tait. Et heureusement que Jésus se tait souvent devant nos imbécilités. Mais s'il prend la parole, ce sera grave. Vaut mieux pour lui qu'il se tait. Il se tait devant nos erreurs et nos fautes de tous les jours. Amen.